L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Allez, Volant, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Volant. Volant, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Volant et n'hésitez pas à vous abonner.
Donc bonjour à tous, je suis avec Branislav Peric à la maison. On se connaît depuis un petit moment avec Branislav, je ne saurais pas dire. Je pense que quand tu étais chez Duke et moi j'étais chez Vangsen de mémoire. Je suis pas très sûr.
Une dizaine d'années ?
Une dizaine d'années, un truc comme ça. Et depuis quelques années, tu as créé une agence qui s'appelle Wiz, qui est un nouveau modèle d'agence.
C'est ça.
Tu l'as créé quand ?
Il y a deux ans et demi environ.
Il y a deux ans et demi. Et en fait, dans un déjeuner, on discutait ensemble du digital et en particulier de la situation de la Chine et de la Silicon Valley et de l'Europe. Et une des choses sur lesquelles on est tombé assez d'accord, c'est qu'aujourd'hui, le centre du monde du digital, c'est pas forcément la Silicon Valley, mais la Chine, et que finalement, même si en Europe on regarde assez peu la Chine, enfin pas beaucoup la Chine, à part ceux qui travaillent vraiment avec la Chine, on se rend compte que la feuille de route de pas mal de startups dans la Silicon Valley, y compris Facebook, et surtout Facebook, je trouve que c'est l'exemple le plus parlant, sont en train de copier ce qui se passe en Chine, en fait. Donc toi, j'aimerais savoir ce que t'en penses de ça, ce que t'as à dire là-dessus, mais aussi qu'est-ce que ça implique pour nous et qu'est-ce qu'on peut apprendre aujourd'hui de la Chine.
Tout d'abord, merci pour l'invitation, Greg. Et la Chine est un sujet, je trouve, fascinant de nos jours depuis 3 ou 4 ans environ, depuis ça coïncide avec l'arrivée de WeChat en Chine. Ouais. Je trouve que à tous les étages de la fusée digitale, dans toutes les catégories et de projets et de sujets data, de sujets contenu, la Chine propose une réalité, un dynamisme dans ce qui se passe sur tout ce qui est digital, qui en avance par rapport à ce qu'on vit dans le reste du monde. Toi comme moi, on a grandi à une époque où les US on lorgnait tous sur ce qui se passait aux États-Unis. On a des amis en commun d'ailleurs aux États-Unis qui nous servaient un peu de phare il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, la plupart des tendances lourdes, profondes viennent de la Chine. Et je trouve qu'on est, y a une forme de nombrilisme en Europe et notamment en France, dans un grand pays.
Peut-être c'est un nombrilisme occidental quasiment.
C'est occidental, mais c'est, je pense, particulièrement vrai en France, en Allemagne, dans les grands pays coloniaux et historiques.
Historiquement,
c'est que la Chine, on nous a peu enseigné son histoire, on connaît mal sa culture, on connaît mal l'évolution substantielle de son économie ces 15 dernières années, et pourtant on sait que l'économie chinoise est devenue extrêmement puissante, et elle n'est pas juste un pays émergent désormais dans toutes les catégories, sur le commerce, mais aussi sur les acteurs du digital. Il y a une vraie avant-garde en Chine qui a dépassé très nettement ce qui se passe aux États-Unis. Et je trouve que c'est quand même dommage aujourd'hui qu'un Zuckerberg puisse parler de feuille de route pour Facebook Messenger sans parler du fait qu'il a plagié en grande partie la roadmap de WeChat.
Il va pas le dire. En fait, moi, au début, quand ils ont fait ça, je me suis dit que c'était surtout pour rentrer en Chine, parce qu'ils ont échoué en fait sur l'entrée en Chine avec Facebook. Mais au final, tu te rends compte que non, en fait, c'est vraiment la roadmap pour l'intégralité des pays et donc l'intégralité du produit. Mais il n'y a pas que Facebook, évidemment. Là, on parle de Facebook parce que c'est sans doute le site le plus connu. Ce que je trouve effectivement intéressant, c'est qu'en Occident, en particulier en Europe, donc comme tu le disais, on regarde assez peu la Chine, à part les gens qui y travaillent ou qui travaillent avec la Chine. Toi, je pense que tu as pas mal travaillé avec la Chine quand tu bossais chez L'Oréal. C'était aussi à ce moment-là que tu as réalisé...
Oui, absolument, et ça a été une révélation. Hein. Pour tout dire, c'est que j'étais le directeur digital et médias et e-commerce du travel retail, donc du business aéroport et avion de L'Oréal. Et il est vrai que le voyageur chinois est un shopper, la première nationalité acheteuse dans les aéroports du monde entier. Et la Chine a été un focus très fort pour moi et une grande découverte, parce que j'ai appris à quel le poids du e-commerce en Chine, que comment les Chinois ont zappé le desktop au profit du mobile, comment les Chinois ont zappé le commerce au profit du e-commerce, parce qu'en dehors de Shanghai, Pékin, Guangzhou et quelques villes, dans beaucoup de villes chinoises, tiers 2, tiers 3, aujourd'hui on retrouve relativement peu de commerce, ou un commerce assez chaotique, des marchés, c'est le règne du C2C aussi, hein, c'est que Alibaba, un des premiers gros acteurs chinois, ringardise totalement, je trouve, depuis plusieurs années, des sites comme Le Bon Coin ou comme eBay, parce que c'est dans la culture des Chinois que de vendre, que d'échanger, que de faire du commerce.
C'est vrai.
Et il y a une... Quand on commence à s'y intéresser, quand on met le doigt dedans, ensuite ça devient forcément quelque chose auquel on accorde beaucoup d'importance et qui donne un peu le là de ce que sera certainement un futur proche ou moyen terme dans le reste du monde et notamment en Europe.
Et alors du coup, tu disais en Chine, le mobile s'est imposé, l'e-commerce s'est imposé, le C2C s'est imposé, etc. Tu as des exemples un peu rigolos, tu me parlais des marchés par exemple où les gens utilisent leur mobile ou WeChat pour payer.
Oui, alors ce qui, moi j'ai plusieurs images dans ma banque d'images que j'aime beaucoup montrer à mes clients ou aux gens qui s'intéressent à ces sujets. On voit un paysan, notamment dans une photo, donc le visage complètement
brûlé
par le soleil et par la terre, donc un vrai paysan du fin fond de la Chine. Et il a son petit étalage avec ses patates sales hein, qu'il a même pas pris la peine de laver, et il y a un QR code et il encaisse sur WeChat Pay les paiements de tout un chacun qui lui achète des marchandises. Et ça, c'est la Chine, c'est-à-dire que ils ont sauté toutes les étapes et c'est prégnant à tous les étages du pays, et de ce fait ça rejaillit sur le reste du monde, parce que ça définit, au même titre que les Américains ont inventé beaucoup de choses sur les métiers du digital et sur sur ce business, la Silicon Valley notamment, ils sont en train de tout chambouler et de tout réinventer à leur propre sauce.
Il y a aussi un élément dont tu m'as parlé qui était le fait d'avoir des QR codes. Donc ce que tu me disais, c'est que finalement même le paysan du coin en Chine fait ça.
Les Chinois l'ont intégré de manière vraiment fine. On retrouve des shops avec moins d'assortiments, moins de références, moins d'options. Mais quand il y a moins d'options, il y a plus d'options via le e-commerce. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le O2O, le offline to online, online to offline, c'est répandu de manière massive chez les Chinois. On peut acheter dans une boutique en scannant un QR code d'un produit qui n'est pas disponible dans la boutique et se le faire livrer en e-commerce. Commander sur internet des choses et se les faire livrer dans les boutiques. JD, qui est un peu l'équivalent d'Amazon en Chine, est en train de faire une révolution logistique en Chine pour autoriser la même vitesse de livraison que peut le faire un Amazon Prime en France ou en Europe, mais à un niveau des villes tiers 2, tiers 3, c'est-à-dire toutes les villes hors Shanghai et Pékin où la livraison est déjà rapide et pas chère. Mais il y a un vrai bouleversement sur ces notions de O2O qui pour nous sont encore un peu... c'est une réalité dans certains business. Hein, des affaires comme Sephora font déjà beaucoup de click and collect, de réservations sur Internet pour livraison en magasin.
Et puis Leclerc...
Mais c'est Leclerc aussi, bien sûr. Ça va un peu dans les deux sens, mais c'est sans commune mesure avec ce qui se passe en Chine, où le portefeuille est dématérialisé, WeChat Pay s'est imposé partout, Alipay côté du concurrent, je ne rentre pas dans les détails, mais... il y a un dynamisme incroyable. Et suivre la Chine, moi, j'ai réellement quelques flux que je suis quotidiennement. Il ne se passe pas une semaine sans que j'apprenne quelque chose de nouveau, sans que je découvre un changement sur ce marché. Mais ce qui est vraiment clé, je pense, le mot-clé sur la Chine, c'est l'e-commerce.
D'accord.
C'est qu'on a toujours considéré, toi comme moi, on fait des métiers du digital pendant longtemps, et l'e-commerce était une facette du digital et certainement pas la plus importante, en tout cas je parle pour moi de ma carrière. Aujourd'hui le e-commerce devient omniprésent et il y a fort à parier, il y a beaucoup d'articles qui en parlent aujourd'hui, que tout le monde doit s'y mettre. C'est devenu une
tout le monde y est plus ou moins, mais ce qu'on voit, et moi ce qui me semble intéressant aussi, c'est de voir que les places de marché comme Amazon ou Alibaba, ces places de marché finalement, elles prennent une place de plus en plus prépondérante. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui se posent la question de savoir si elles doivent aller, pas aller sur les places de marché. Alors bien sûr, elles pensent à Amazon en priorité quand on est en Europe et particulièrement en France. Mais je pense que c'est aussi un gros truc qu'on voit en Chine à travers Alibaba, mais à travers d'autres.
Les marketplaces, il y en a environ entre 45 et 50 en France, à ma connaissance.
Ouais.
Donc c'est plus seulement la marketplace Amazon, c'est des marketplaces qui sont en train de... Il y en a une à la Fnac, il y en a une chez Decathlon, je crois, où je confonds peut-être avec l'autre, leur concurrent, mais tous les grands acteurs du e-commerce historique français ont des marketplaces maintenant. En ayant des marketplaces, ils inondent Google et les SERP, donc les résultats de recherche avec leurs produits. Mmh. Aujourd'hui, je pense que ça nous est tous arrivé de chercher un produit dans Google et de voir en première page de réponse, en page de résultats, une écrasante quantité de résultats de recherche qui correspondent à des marketplaces d'Amazon, bien entendu, mais aussi des autres marketplaces françaises. Donc il y a une part de vie, une part d'esprit, une part de présence, de pression dans la vie des Français au quotidien qui s'exerce pas seulement par les acteurs du e-commerce historique qui sont en réalité de moins en moins bien référencés sur Google, mais d'Amazon et de toute la traînée en étoile filante derrière.
Donc ce que tu dis, c'est que finalement la problématique, c'est pas tant que les marques sont pas dans l'e-commerce, parce qu'en général elles ont fait le pas, mais avec leur site e-commerce à elles, alors que toi ce que tu dis, c'est qu'elles devraient forcément et qu'elles vont être obligées de s'intéresser au marketplace.
C'est une approche holistique, c'est-à-dire qu'il faut vendre en direct sur son site, mais il faut aussi vendre sur Amazon ou sur des circuits des marketplaces verticales qui correspondent au business dans lequel on est, mais il faut gérer aussi ça, ce qu'on appelle le nouveau nom du SEO que je lis assez régulièrement, c'est le SXO maintenant, la search experience, l'expérience de recherche qui se fait pas seulement sur Google mais qui se fait aussi sur des moteurs de recherche de comparateurs de prix, sur des shopping, des comparateurs de shopping. Donc il faut veiller en permanence à démultiplier sa présence, ses références produits, quelles que soient les recherches que font les internautes, donc s'adapter aussi bien à notre offre, à l'optimiser, donc c'est le côté e-merchandising qui est un métier un peu émergent, mais aussi la dimension search qu'il faut optimiser en permanence, c'est-à-dire guetter comment les gens formulent leurs questions sur Google ou sur d'autres moteurs de recherche pour trouver les produits. Et cette somme d'empreintes de marques dans l'esprit des gens via l'expérience e-commerce, de tout ce que je viens de citer, forme un poids qui se rapproche assez bien de ce que la Chine est déjà aujourd'hui, qui va se rapprocher en France certainement de ce que la Chine est déjà aujourd'hui, c'est-à-dire que le commerce devient une nouvelle forme de communication. Faire bien du commerce, optimiser sa toile d'araignée, veiller à être un peu partout dans la vie du consommateur, sur son mobile, sur son ordinateur, c'est une manière émergente de communiquer et d'exister en tant que marque. Et ça, c'est déjà la réalité en Chine, mais c'est pas le cas encore en France, en Europe et en Occident.
Non, parce que les marques, elles veulent pas trop y aller sur les plateformes, enfin, sur les places de marché. En fait, là, il y a Nike qui a annoncé qu'ils allaient sur Amazon, mais c'est un peu la révolution. Et pas en France, mais au niveau global.
Je pense que c'est l'événement de l'année, le fait que Nike décide de faire marche arrière et d'aller sur Amazon. Enfin, c'est un des événements structurants de ce qu'aura été cette année. C'est que le retour de Nike sur Amazon, alors qu'ils avaient juré cracher qu'ils iraient pas, montre que être sur Amazon, c'est une question de vie ou de mort en termes de part de marché désormais.
Tu crois ?
Ouais, je pense que ça va s'imposer. Et le principal frein à ce que ça se développe, c'est une question de métier. C'est-à-dire que les métiers du e-commerce sont encore nouveaux et l'intégrer à son cœur business est encore compliqué, tant d'un point de vue recherche de talent que d'un point de vue organisation du travail.
Il y a ça, mais il y a aussi la volonté stratégique, parce que moi, je connais quand même pas mal de marques qui veulent pas aller sur ces... Enfin, après, la question, c'est surtout comment t'organises cette présence, parce que... pareil, dans cette discussion avec le Beaumira, on se disait finalement les produits Carastase, ils sont vendus sur Amazon mais pas par eux, et de mauvaise manière entre guillemets. Alors ils auraient tout intérêt à reprendre la main, mais encore faut-il que, et c'est vrai qu'Amazon le fait, hein, ils essayent d'aller vers le luxe, donc à proposer des marchés, des types de stores finalement qui sont différenciés en fonction de la catégorie dans laquelle est la marque. Mais
moi, je pense qu'il y a un très bon exemple qu'il faut explorer sur Google pour les gens qui nous écoutent, c'est l'association entre JD, donc l'Amazon chinois, et Farfetch.
Ouais.
Farfetch, c'est un acteur britannique qui référence, c'est un peu du DJing de produits, c'est un peu une sélection, c'est un peu la sélection des produits cool qui sont du coup distribués par Farfetch. Ouais. Il y a un deal entre JD et Farfetch pour essayer de réinventer la manière dont JD intègre le luxe sur sa plateforme, histoire de coller aux exigences des marques. Je pense que là encore, je reviens sur ce que j'ai dit au début, je pense que la Chine est en avance.
Ouais.
Et ce qui va se passer sur JD dans les 12 mois à venir avec Farfetch, va donner le là et va largement inspirer Amazon dans ce qu'ils vont eux-mêmes faire et risque il y a fort à parier qu'Amazon va aussi s'y mettre, à proposer des options plus variées et plus riches aux marques.
Du coup, les marques, elles doivent regarder absolument ce que tu dis, hein, mais ça me semble assez évident, que les marques doivent absolument regarder ce qui se passe en Chine, en particulier sur l'e-commerce, pour savoir comment elles doivent construire leur feuille de route demain.
Je pense qu'en prospective, il faut regarder la Chine. C'est-à-dire que ce qui se passe en Chine donne une bonne idée de ce qui pourrait se passer en Europe, toute proportion, enfin, il ne faut pas s'exciter non plus. Hein.
Bien sûr.
En revanche... Le défi présent, c'est le défi des talents, en fait. C'est-à-dire que moi, je le rencontre au quotidien dans mon boulot, c'est que c'est sur les métiers du e-commerce que j'ai le plus de mal de recruter, parce qu'il y a des gens qui ont bossé chez Amazon et chez des e-commerçants. Ils ont souvent une vision un peu trop étriquée du digital. Alors, je force le trait, forcément, mais ils ont leur vision d'e-commerçant pure player. Là où amener des marques qui ne faisaient pas du e-commerce jusqu'ici sur du e-commerce, ça demande beaucoup de pédagogie, donc c'est la transformation digitale, comme le font beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Il faut expliquer aux gens en interne, il faut faire une pédagogie business, une pédagogie marketing, une pédagogie contenu, une pédagogie search. On se retrouve avec beaucoup de territoires sur lesquels l'entreprise doit faire un upskilling pour pouvoir commencer à générer du chiffre d'affaires en e-commerce.
Et là, c'est même pas une question d'e-commerce, c'est une question de place de marché, c'est encore un autre niveau, non ?
J'intègre les places de marché dans une approche générale du e-commerce, mais effectivement, e-commerce, il ne faut plus voir simplement son site en vente directe, il faut voir ça comme une optimisation de sa présence.
En fait, le truc, c'est que moi, je me suis toujours dit, par exemple, prenons une marque comme, admettons Kérastase, on en parlait tout à l'heure, pourquoi moi, client, j'irais sur le site de Kérastase pour acheter du shampoing Kérastase quand je peux aller le faire sur... potentiellement Amazon, mais potentiellement Sephora ou potentiellement Marionneau. En fait, à partir du moment où je peux acheter le produit sur d'autres places de marché, c'est quoi l'expérience ? Donc, tu parlais de customer experience. C'est quoi l'expérience qu'on m'offre et qu'est-ce qui fait que je vais aller faire ça ? Sachant que pour les marques, l'enjeu quand même d'attirer les gens sur leur site e-commerce, c'est la data. Parce que à la fin, Amazon ou Sephora ne partagent pas leur data. Donc, en fait, tu as quand même tout intérêt, quand tu es une marque, à ce que les gens viennent acheter chez toi. Mais effectivement, là où tu as raison, je crois, c'est que tu peux pas te couper d'être présent sur les autres plateformes de marché parce que, à défaut, les gens risquent d'acheter tes concurrents au final.
Ce que moi j'observe aussi dans mon expérience et je pense que d'acheteurs sur Internet, c'est qu'il m'arrive d'acheter un produit sur une marketplace ou chez Amazon, mais d'aller voir sur le site du fabricant. Voir une fiche produit beaucoup plus riche, avec des vidéos, avec plus d'images, avec des témoignages peut-être parfois riches, d'aller voir sur YouTube aussi ce qui se dit. Et finalement, il faut voir ça comme une expérience d'achat globale. Et ça ne veut pas dire que le site de vente de produits Kérastase, par exemple, il n'est pas significatif en lui-même. Mais il est essentiel en tant que point de contact dans l'expérience d'achat et de réachat. Parce que si on parle de Kérastase, on peut aimer un shampoing qu'on a acheté chez son coiffeur et puis derrière avoir envie de le réacheter en ligne. Et ben, comment le retrouver, comment en savoir plus, comment voir ce que d'autres consommateurs en ont pensé. Avant, on voyait ça comme une stratégie d'influence. Je pense qu'il y a un recentrage sur la transaction. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a beaucoup d'articles, j'en lis énormément depuis quelques mois, sur le fait que finalement Google règne sur l'intention, que Facebook règne sur l'identité, sur la data identitaire, et Amazon sur la transaction. Aujourd'hui, Amazon est en train de redevenir l'acteur cool qui prend un peu le pas et qui a accès à l'identité, qui a accès à l'intention, qui en sait de plus en plus sur nos...
Cool, et en même temps, qui fait peur, il y a, comment il s'appelle, le patron de L2, Scott Galloway, qui disait Amazon va devoir être démantelé parce qu'en fait, ils connaissent trop de choses, ils sont trop puissants, en fait.
Ouais, je pense, et encore une fois, je pense que j'encourage tout le monde de s'intéresser au marketing digital en Chine, tous les gens qui sont de près ou de loin des professionnels du marketing ou de la communication, ou même en source business, parce qu'en voyant le dynamisme qu'il peut y avoir, les mouvements de part de marché qu'il y a sur le marché de l'e-commerce chinois, on réalise que dans le reste du monde, Amazon est beaucoup trop puissant, renferme, et le fait que Nike fasse marche arrière, on en parlait tout à l'heure, n'est pas un hasard, c'est que Nike n'a pas le choix. Amazon a encerclé Nike, ce qui est... on a rarement vu Nike faire marche arrière sur quoi que ce soit. C'est une entreprise qui est très déterministe.
Et du coup, les marques, comment elles font pour rentrer sur les marketplaces ? Parce que ce que tu disais, il y a quand même un problème de talent. À un moment donné, il y a les talents e-commerce Ça, c'est une chose, mais en plus, il y a un talent sur les marketplaces qui n'est pas forcément le même.
Oui, bien sûr. Et je pense que ça demande une... Il y a un terme que j'entends de plus en plus depuis 2 ans, qui est le gros hacking. Alors, c'est, ouais, un terme, c'est un terme un peu creux, parce que ça témoigne d'une démarche plus que d'un métier.
Ouais.
Mais néanmoins, ça demande une ingéniosité, une manière de contourner les obstacles, d'essayer d'optimiser par plein de petites optimisations. C'est une somme de petites choses qui créent les résultats de business. Et ça, la plupart des grands acteurs du marketing, au niveau business, ils raisonnent grand coup, ils raisonnent être prioritaires sur un axe ou sur 2 axes. Or, cette optimisation de la toile d'araignée e-commerce, je tends ma toile et j'attrape les mouches, pour faire une métaphore, cette optimisation, elle nécessite... C'est dans les détails qu'elle se travaille. C'est dans une optimisation de chaque instant. Un merchandiser, ça m'est arrivé de voir un merchandiser travailler sur Tmall en Chine. Tmall, ça se gère au quotidien. On peut faire de l'A/B testing sur chaque chose. Les options de merchandising sont infinies. C'est comme si on rentrait dans sa boutique et qu'on avait une baguette magique et qu'on pouvait déplacer les meubles si on était un sorcier ou un magicien. Ça, c'est génial et c'est ce qu'autorise Tmall. Aujourd'hui, Amazon n'autorise pas ça aux marques. Je pense que ça va changer, parce que Amazon va devoir copier les Chinois, je le disais, et du coup s'adapter au temps qui change.
Cool. Et alors, ce podcast, il s'appelle Vlan. À qui ou à quoi tu voudrais claquer la porte aujourd'hui ?
Alors, moi, j'aime beaucoup claquer la porte, donc t'as le bon invité pour claquer la porte. Je claque la porte en permanence. Mais je vais le faire de manière douce mais ferme. Pour moi... Le Vlan, il est à la culte du GAFA roi. C'est-à-dire que je ne fais pas un Vlan au GAFA, parce que moi, je n'ai rien contre Google, Amazon et Facebook. Je trouve que ce sont des entreprises admirables en tout point de vue. Leur succès en témoigne. Par contre, je ne supporte pas la manière dont beaucoup trop de gens vénèrent tout ce qui peut sortir de leur bouche et tout ce qu'ils peuvent faire. Le côté « on ne challenge pas assez ces players ». Pourtant, on est en France, on est dans le pays du contre-argument, du débat, du débat d'idées. Mmh. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui gagneraient à être un peu plus courageux à exprimer, à faire des critiques constructives quand ils parlent de ces acteurs-là, et pas simplement se contenter de répéter, comme à la messe, tout ce qu'ils peuvent dire dans leur publiquement. Les faire changer, c'est aussi aller dans le bon sens par rapport au monde dans lequel on vit, par rapport à des équilibres économiques, sociaux... merde, on est en France, quoi. On devrait s'y attendre. Donc Vlan.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci d'avoir écouté Vlan, le podcast qui parle du marketing à l'ère digitale. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.